Hébreux, chapitre 2, deuxième partie. Prêché le 25 août 1957 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, un dimanche soir. Tout d'abord, il étudia les Écritures afin qu'il puisse les comparer et voir si c'était la vérité ou pas. Il tira la vérité de l'Ancien Testament. Maintenant, Paul était un érudit de l'Ancien Testament. Combien savent cela? Il était un. Il fut enseigné par l'un des meilleurs docteurs de son temps, Gamaliel, un docteur éminent. Et Paul connaissait l'Ancien Testament. Et je crois que la première fois qu'il fut bouleversé, comme je l'ai dit ce matin, fut quand il assista à la mort d'Étienne. Quelque chose doit avoir saisi Paul, car tout au long de ses écrits, il s'y réfère. « Je ne suis pas digne parce que j'ai persécuté l'Église jusqu'à la mort. Je suis le plus petit d'entre eux. » Oh, mais Dieu avait de lui une idée différente. Il était l'un des hommes les plus puissants de son temps. Regardez à saint Paul, le grand apôtre, avec sa robe si brillante et claire, a dit le poète. Oh, il y aura certainement de grands cris quand nous nous rencontrerons tous là-bas. Ce grand jour, quand je le verrai recevoir une couronne de martyr, une récompense de martyr. Je me tenais avec un petit crayon ici il n'y a pas longtemps, là où il écrivit ses lettres, et lui coupèrent la tête et le basculèrent dans les égouts. Et ce petit juif dit, « Je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. J'ai combattu avec des bêtes à Éphèse, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, il y a une couronne de justice qui m'attend que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. » Combien j'aime cela! Oh, je veux être compté parmi eux! Nous avions l'habitude de chanter un chant. Oh, serez-vous compté parmi son troupeau? Serez-vous compté parmi son troupeau? Soyez sans tâche intérieurement, soyez vigilants dans l'attente de contempler cette vue. Il revient de nouveau. Je veux être l'un d'entre eux. Maintenant, l'écrivain continue et dit, c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Comme nous l'avons étudié ce matin, le deuxième verset dit, si, car si la parole prononcée par des anges, qu'avons-nous trouvé que les anges étaient des prophètes, Dieu parla autrefois. Maintenant, vous ne devez pas avoir votre propre idée, mais celle de la Bible. Maintenant, le premier chapitre, le premier verset. Dieu qui autrefois est de plusieurs manières, parla à nos pères par les prophètes. Alors, il continue et il dit de nouveau. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et que veut dire un ange? Messager. Si le messager ou un de Dieu, et alors si nous sommes un, nous sommes des messagers de Dieu, nous sommes des messagers pour le monde et des ambassadeurs du ciel, professant que nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous recherchons une ville dont le bâtisseur et l'architecte est Dieu. Nous n'amassons pas des trésors dans ce monde où les voleurs s'introduisent, où il y a des mythes et où la rouille corrompt. Car nos trésors se trouvent au ciel, où Jésus est assis à la droite de la majesté. Oh, quelle chose glorieuse et merveilleuse de savoir cela! Nos espoirs ne sont fondés en rien de moins que sur le sang et la droiture de Jésus. Quand tout autour de mon âme cède, alors il est tout mon espoir et il le demeure. Sur Christ, le rocher solide, je me tiens. Des sables mouvants sont tous les autres terrains. Des sables mouvants sont tous les autres terrains. Eddie Pruitt écrivit ce chant au temps des persécutions. Maintenant, si la parole prononcée par les anges a eu son effet, quand le messager de Dieu prononça la parole, elle resta. Et chaque récompense ont reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous si nous n'entendons pas Christ qui part du ciel? Maintenant, regardez. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Pensez-y. Qui à l'origine fut annoncé par le Seigneur. Christ commence son œuvre. Que fit-il? Nous le voyons. Comme il était humble, si petit, il n'était pas un grand théologien bien connu, mais il était humble, doux, gentil. Il n'était pas un prédicateur considérable. Sa voix n'était pas entendue dans la rue, mais Jean vint avant comme un lion rugissant. Lui était un prédicateur. Jésus n'arriva pas comme un lion rugissant, mais Dieu œuvrant avec lui confirmant la parole. Dieu était avec Christ. Hier dit le jour de la Pentecôte, vous, hommes d'Israël, et vous tous qui vivez en Judée, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé par Dieu devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Regardez comme il les oblige à reconnaître les faits. Vous auriez dû l'avoir connu. Jésus dit, vous, hypocrites, vous sortez, et regardez le soleil, et vous, et quand il est rouge et bas, vous dites, il fera mauvais temps. Et si c'est clair et ensoleillé, vous dites, il fera beau temps. Il dit, vous pouvez discerner le ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Car si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon jour. Oh, comme il crierait ce soir, comme son esprit crie à travers ses prédicateurs. L'heure est venue, nous discernons. Nous regardons les bombes atomiques. Nous savons qui prendra la place de Clark Gables et qui fera ceci, cela et cela et qui sera le vice-président. Nous nous intéressons à cela, mais nous ne pouvons pas discerner les signes des temps. Nous sommes à la fin. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes si intéressés au prochain programme de la télévision. Que va faire Suzy? Ou quel est le nom de cette femme? Et que fera Arthur Godfrey? Quelle sorte de plaisanterie va-t-il nous raconter la prochaine fois? Nous, comme chrétiens, avons notre pensée tournée vers de telles bêtises, alors que nous devrions être en prière quelque part et étudiant la Bible afin de connaître les signes des temps dans lesquels nous vivons. Ce qui fait cela dans notre temps, c'est la faiblesse des chairs, c'est juste. Ils ne sont pas là pour apporter la vérité de l'Évangile. Nous devrons répondre de cela dans les jours à venir. Nous ne devons rien négliger. Et toutes les personnes qui sont ici, à ce Branham Tabernacle, voyant les signes et les miracles, et la puissance du Christ ressuscité, et alors, sachant cela, si nous occupions notre temps à autre chose, et négligions d'écouter la voix du Seigneur Jésus, comment pourrons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Le troisième verset, ou le quatrième verset, voici où nous sommes arrêtés ce matin, au quatrième verset. Dieu appuyant leur témoignage. Oh! Dieu appuyant leur témoignage. Écoutez ces paroles. Par des signes, des prodiges et des miracles variés. Que veut dire des miracles variés? Que veut dire variés? Variés veut dire plusieurs. Dieu appuya leur témoignage avec beaucoup de miracles. « Oh Dieu, j'espère que cela pénétrera dans vos cœurs. Écoutez, je suis un de vos pasteurs avec frère Neville ici. Je veux que vous en preniez note. La Bible dit, s'il y en a parmi vous qui dit telle et telle chose et que cela n'arrive pas, ne l'écoutez pas, car je n'ai pas parlé. Mais s'il parle en mon nom et que ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Amen. Car je suis avec ce prophète, ou prédicateur, ou qui que ce soit. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Maintenant, mes amis, écoutons-le. Le Saint-Esprit parlant au milieu de nous, montrant divers miracles, et des signes, et des prodiges. Ne laissons pas passer cela simplement comme des choses qui arrivent couramment. rappelons-nous que c'est Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, confirmant sa parole. Nous devons le faire. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, votre mari, votre femme, vos enfants, quoi que ce soit, mettez-le en second plan. Placez Dieu en premier. Vous dites, Frère Branham, avant mes enfants, avant n'importe quoi, placez Dieu en premier. Laissez-le être le premier. Élie descendit un jour de la montagne. C'était un ange, un messager de Dieu, loin. Et il trouva une veuve qui ramassait deux morceaux de bois. Il dit, « Va, cuis-moi une petite galette et donne-moi un peu d'eau. » Elle dit, « Que ton âme vive, j'ai juste assez de galettes ou assez de pâtes pour faire une petite crêpe et je n'ai plus qu'un peu d'huile pour la mélanger comme matière grasse. Et je ramasse deux bouts de bois. » L'ancienne manière était, à la manière des Indiens, de croiser deux bois et de les brûler au milieu, en les rapprochant au fur et à mesure qu'ils brûlent. J'ai fait beaucoup de feux de camp comme cela. Elle dit, « Maintenant, je vais cuire ce petit gâteau pour moi et mon garçon, mon bébé. Nous allons le manger, puis mourir. » Voilà 3 ans et 6 mois que durait la sécheresse. Il n'y avait d'eau nulle part. Ce vieux prophète austère regarda cette femme dans les yeux et dit, « Va d'abord me cuire un gâteau. Quel ordre pour un homme d'aller dire cela à une veuve qui mourait de faim, de d'abord le nourrir. » Que dit-il ?« Ainsi dit le Seigneur, le pot de farine ne se videra pas et la cruche d'huile ne séchera pas jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la terre. » D'abord Dieu. Elle entra, fit cuire ce petit gâteau et va le donner au prophète. Elle retourna et en cuit un autre et un autre et un autre et un autre. Et le pot de farine ne se vida jamais et la cruche ne devint jamais sèche jusqu'à ce que Dieu envoya la pluie sur la terre. Elle mit Dieu avant ses enfants. Elle mit Dieu avant n'importe quoi. Elle prit d'abord le royaume de Dieu. Dieu doit avoir la première place dans votre cœur, la première place dans votre vie, la première place dans tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. Dieu doit être en premier. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur et le premier de tout ce que nous avons. Il le mérite. Béni soit son saint nom. Car Dieu, appuyant leur témoignage, il témoigna avec des signes et des prodiges, des miracles variés et des dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Parce que les hommes disent ce que l'Église dit, mais ce que la volonté de Dieu est. Oh, nous avons besoin de rechercher la volonté de Dieu. Pas la faveur de votre voisin, pas la faveur de vos enfants, pas la faveur de votre mari ou de votre femme, mais recherchez la volonté de Dieu. Faites cela d'abord. Alors tout le reste, la volonté de la femme et la volonté des enfants, va tomber exactement avec elle. Mais placez Dieu en premier. Regardez maintenant. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Autrement, les grands anges, ses ministres dans les cieux, Gabriel, Michel et les 10 000 fois 10 000 anges des cieux, ou les centaines de prophètes qui ont été sur la terre, chacun d'eux, il ne les a jamais placés pour avoir le contrôle sur le monde à venir dont nous parlons. Pas un seul. Il n'a jamais dit, Ésaïe, tu contrôleras le monde. Il ne soumit jamais le monde à Élie, pas plus qu'à Gabriel ou qu'à un autre ange, ou à quelque autre esprit exerçant un ministère. Observez ce qu'il dit. Paul rendant Christ encore plus grand, ce dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage disant, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Maintenant, si vous voulez lire cela, c'est le psaume 8, versets 4 et 6. David qui parle. Maintenant, comment appelle-t-il David ici? Cela résout le problème. Si c'était juste ou non ce matin concernant le prophète, il dit, car un des anges dit à une certaine place, David, le messager de Dieu, était un ange de Dieu, car il était un messager de Dieu. L'ange dit, David dit dans les psaumes, tu l'as fait un peu inférieur aux anges des cieux. Un ange a dit que Dieu l'a fait inférieur à un ange, afin qu'il puisse le couronner et qu'il puisse souffrir et goûter à la mort, afin qu'il puisse être de nouveau élevé, afin qu'il puisse le faire, hériter toutes les choses du monde. Maintenant, dans Matthieu 28, 18, nous lisons ceci. Après avoir été crucifié, il ressuscita de nouveau le troisième jour. Il retrouva ses disciples et leur ordonna d'aller dans tout le monde pour prêcher l'évangile à toute créature. Il dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute la puissance du ciel, toute la puissance de la terre m'a été donnée. Qu'est-ce que c'était? Homme et Dieu étaient réunis. Le Logos avait été fait chair et avait été tué et ressuscita de nouveau pour notre justification. Et fut alors l'Emmanuel oint pour les siècles des siècles. Dieu changea sa demeure du trône dans l'espace quelque part au cœur de son Fils Jésus-Christ pour vivre et régner pour toujours. Dieu était en Christ. Il est la dernière demeure de l'Esprit. L'Esprit demeura une fois dans le tabernacle, vous savez cela, sous une tente, et Salomon lui bâtit une maison. Mais le Tout-Puissant ne demeure pas dans des maisons faites par des mains humaines. Mais tu m'as préparé un corps. Dans le livre des Actes, chapitre 7, ce dont il parla, il est dit, ils l'ont tous vu à l'avance. Ils ont construit une tente pour lui. Moïse le fit, et il déposa l'arche. Car Dieu était sur le trône de la grâce. Il ne demeurait pas là. Très bien. Tu m'as préparé un corps. Le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui fut fait inférieur aux anges, afin qu'il puisse mourir. Et c'était personne d'autre que le plus grand des grands, Christ, le prince de la paix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes les étoiles de l'univers. Ô Dieu, il devint le Seigneur de sa création, afin qu'il puisse sauver les hommes, l'homme sans aide et sans abri, et leur donner une place au ciel. Il quitta la gloire du ciel, il quitta le nom le plus grand qui puisse être appelé. Et quand il était sur la terre, l'homme lui donna le nom le plus bas que l'on puisse lui donner. Ils dirent pour commencer qu'il était un enfant illégitime, né dans une étable, enveloppé dans des lambeaux pris derrière le joug d'un bœuf. Pas d'endroit où aller, pas de foyer où aller. Et il fut appelé Belzébul, le chef des démons. Il fut maltraité, on lui cracha dessus, on s'est moqué de lui, il fut rejeté. Et il descendit dans les lieux les plus bas, chez les prostituées les plus infâmes. Voilà ce que l'homme lui a fait, mais Dieu le ressuscita. Et il alla si haut qu'il devait regarder en bas pour regarder le ciel. L'homme lui donna le siège le plus bas, lui, il lui donna la plus mauvaise place, le nom le plus bas, mais Dieu le ressuscita, lui donna le siège le plus haut et le nom le plus haut. C'est la différence entre ce que l'homme a fait avec le Fils de Dieu et ce que Dieu a fait avec le Fils de Dieu. Il savait ça, afin que nous puissions être élevés. Il devint nous, afin que par sa grâce nous puissions devenir lui. Il vint vers les sans-abri et devint lui-même sans-abri, afin que nous puissions avoir un abri. Il vint vers les malades, et il devint lui-même malade, afin que nous puissions être guéris. Il vint vers les pécheurs, et il devint lui-même péché, afin que nous puissions être sauvés. Ce n'est pas étonnant qu'il fût exalté. Ce n'est pas étonnant qu'il est ce qu'il est ce soir. Dieu l'a exalté, et toutes les puissances dans les cieux et sur la terre lui sont données. Quand son œuvre terrestre fut terminée ici sur la terre, il vint sur la terre, et aussitôt qu'il le fit, l'étoile du matin le déclara être le Fils de Dieu. il secoua tous les démons avec qui il entre en contact. Béni soit le nom du Seigneur. Les démons tremblaient, s'agitaient, imploraient son pardon en sa présence. Oui, monsieur, tout l'enfer savait qui il était. Il marcha humblement. Il n'avait pas un lieu pour poser sa tête dans une nuit pluvieuse. Même les animaux qu'il avait créés, les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu pour reposer sa tête bénie. C'était vraiment ainsi. Il devint péché, fut abaissé et abandonné, mais les démons savaient qui il était. Ils implorèrent sa miséricorde. Ils dirent, « Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps ?» Et pendant que les prédicateurs l'appelaient Belzébul, le diseur de bonne aventure, les démons l'appelaient le Fils de Dieu et mendiaient sa grâce. Oh, combien nous pourrions seulement nous arrêter ici pour une minute. De toute manière, qui êtes-vous? Que signifie le travail que vous faites? Ou que signifie cette petite maison que nous avons? Que signifie la voiture que nous possédons? Belle petite jeune fille, vous petite chose coquette, qu'est-ce que ce petit air que vous avez maintenant? Vous, jeunes hommes aux cheveux brillants et aux épaules droites, un jour, vous vous courberez affaissé par l'âge. Mais, béni soit le Seigneur, vous avez une âme qui est née de nouveau. Vous vivrez pour toujours, parce qu'il devint vous, afin que vous, par sa grâce, puissiez devenir lui, pour vous préparer une place. Oh, nous qui pensons avoir des habits de rechange et quelques victuailles dans la maison, que sommes-nous? Dieu pourrait le prendre dans une seconde, même votre soupe est tenue dans ses mains, et il est ici, au milieu de nous, pour guérir les malades, pour proclamer et professer et prédire, et toutes les fois parfaitement. Et il est même assez intéressé pour ramener un petit poisson mort à la vie de nouveau, au milieu de nous, Jéhovah autour de nous, Jéhovah en nous, le grand et puissant, je suis. Quand il mourut, il pensait qu'il l'avait eu. Il descendit aux enfers. Quand il quitta la terre, le jour qu'il fut crucifié, il alla dans la région des perdus. La Bible dit, il alla et prêcha aux âmes qui étaient en prison, qui ne se repentirent pas lors de la longue attente de la patience de Dieu au jour de Noé. Quand il mourut et son esprit le quitta, il devint de nouveau le Logos. Il, je vois, dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et Dieu était cette colonne de feu qui conduisit les enfants dans le désert. Il mourut, il retourna de nouveau dans une lumière. Paul le vit, et il était une lumière. Personne d'autre ne le vit. Ils virent Paul tomber. Quelque chose le frappa, et c'était une lumière. Qui est-ce que je persécute? Et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui est? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes, et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Alors, il alla et il étudia au sujet de cette lumière. Paul rechercha de nouveau dans la Bible pour trouver ce qu'était cette lumière. Et il écrivit cette lettre. Il est le même Jéhovah. Cette même lumière était dans le désert avec les enfants d'Israël. Et quand Pierre était en prison, il était une lumière qui entra et ouvrit les portes. Et par sa grâce, afin que personne n'ait aucune excuse. Oh, s'il pouvait oublier les messagers illettrés et se souvenir, ce n'est pas le messager, c'est le message. Il est redescendu avec nous dans la forme d'une colonne de lumière. Et il avance avec ses mêmes miracles et signes, rien en dehors de la Bible, restant juste avec la Bible, la tenant sous asservissement, ressortant sa gloire, montrant sa puissance. Béni soit son saint nom. Je sais, vous devez penser que je suis fou, mais, oh, ce repos éternel béni qui est dans mon âme, même si les tempêtes s'agissent, mon ancre tient bon la voile. Et de le voir quand il mourut, jusqu'à ce que la lune prenne une prostration nerveuse, le soleil descendit au milieu du jour, et quand il alla dans la région des damnés, Frère Branham frappe sur le pupitre, note de l'éditeur, frappa à la porte, et la porte s'ouvrit en pivotant, la Bible dit, il prêcha aux âmes qui étaient en prison, qui ne se repentirent point lors de la longue attente de la patience de Dieu du temps de Noé. Il fit cela après qu'il fut décédé sur cette terre. Et mon frère, et ma sœur, quand il décéda, son œuvre terrestre était accomplie, mais il continuait de travailler, et il est encore au travail ce soir. Amen. Il frappa aux portes des perdus, la Bible dit qu'il l'a fait, et il témoigna, je suis la semence de la femme, je suis celui de qui parla Adam, je suis celui qu'Enoch dit qu'il viendrait avec 10 000 de ses saints. Je suis le Fils du Dieu vivant, et vous avez péché tous vos jours de grâce. Mais il vous a été prophétisé par l'ange Enoch, Noé, que je devais venir pour accomplir chaque mot de la Bible de Dieu. Et je suis ici comme un témoin dans cette région des perdus. Et il leur prêcha. Il descendit jusqu'en enfer, jusqu'aux portes de l'enfer, frappa à la porte, et le diable ouvrit la porte et dit, « Je t'ai maintenant !» Et il tira les clés de son côté et dit, « Toi, diable, il y a longtemps que tu tiens le bluff. » Ici, c'est juste dans la Bible. Nous arriverons à cela dans une minute. « Il y a longtemps que tu tiens le bluff, mais je suis venu pour prendre le pouvoir. » Il prit ses clés, il le repoussa dedans et il ferma la porte. Il passa et prit Abraham, Isaac, Jacob. Au troisième jour, il ressuscita. Et ceux qui dormaient dans la tombe ressuscitèrent avec lui. Oh, alléluia! Ce n'est pas étonnant que le poète a dit, « Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il porta mes péchés au loin, ressuscité, il me justifia librement pour toujours. Un jour, il reviendra, oh, quel jour glorieux !» Béni soit le lien qui lie nos cœurs dans la communion chrétienne, l'amour de Dieu. Quand il ressuscita, il n'avait pas encore fini, il avait encore du travail à faire. La Bible dit, il monta en haut et donna des dons à l'homme. Sur la terre pendait une atmosphère de ténèbres, d'obscurité, de mort et de fatigue. Les prières ne pouvaient pas monter parce que l'expiation n'était pas faite. Mais il perça au travers de ce voile. Il ouvrit le chemin, il perça le voile de la maladie, il perça le voile du péché, il perça le voile de la fatigue, il perça le voile de l'abattement, il perça tous les voiles et fit une grande route pour l'homme de voyage. Marchant sur la grande route du roi, oh, il alla plus loin que la lune et les étoiles, en avant et en avant, et arrivant derrière lui, venaient les saints de l'Ancien Testament. Abraham, Isaac et Jacob. Ils vinrent directement dans les cieux du ciel. Et quand ils ne furent plus bien loin de la ville, je peux les voir lever leurs yeux. Abraham dire, c'est la ville que je désirais voir ardemment. Oh, viens ici Isaac, viens ici Jacob. Oh, nous sommes des pèlerins et des étrangers sur la terre. Mais il y a la ville, c'est celle-là que nous attendions. Et la Bible dit qu'ils crièrent, « Ouvrez-vous, portes éternelles, et que vous restiez ouvertes, car le roi de gloire arrive. » Et les anges, derrière les portes, crièrent aussi à ces anges-là derrière et dirent, « Qui est ce roi de gloire ?» Et les anges là-dehors, les prophètes, dirent, « Le Seigneur des armées, le puissant dans la bataille. » Et ils pressèrent sur les boutons, et les grandes portes s'ouvrirent. Juste au milieu des rues, il vient. Le conquérant triomphe avec les saints de l'Ancien Testament, marchant derrière lui. Il s'assit sur le trône et dit, « Père, les voici, ils sont à toi. » Et il dit, « Monte ici et assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. » Comme nous lisons, nous trouvons cela dans les Écritures. Très bien, écoutez, maintenant que nous sommes dans ces 8e versets, « Alors, il a mis toutes choses sous ses pieds, car il mit toutes choses sous ses pieds, Dieu n'ayant rien accepté de cette soumission. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » C'est la mort, nous ne voyons pas encore la mort maintenant, parce que nous mourons toujours, nous voyons la mort, mais, 9e verset, mais nous voyons Jésus. Amen. Écoutez, nous voyons Jésus qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges à cause de la mort, couronné de gloire et d'honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour nous tous qu'il a goûté la mort. Pourquoi s'est-il fait inférieur aux anges? Afin qu'il goûte à la mort. Il devait mourir. Il devait venir pour mourir. Amis, regardez ici. N'oubliez jamais ceci. Quand Jésus marchait, montait la colline, la mort bourdonnait autour de sa tête. Prenons notre image à Jérusalem, il y a 2000 ans. Et maintenant, pouvez-vous le rejeter? J'entends un bruit venir de la rue. Qu'est-ce? On dirait quelque chose qui cogne. C'est une vieille croix rugueuse qui descend, passant les portes d'Amas, heurtant les pavés. Ces gros pavés sont toujours là, heurtant ces gros pavés, cognant et cognant. Je vois les éclaboussements de sang sur la route. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui n'a rien fait de mal, rien que du bien. Les gens étaient aveugles, ils ne le connaissaient pas, ils ne l'ont pas reconnu. Vous dites, aveugle? N'avaient-ils pas encore leur vue? Vous pouvez encore avoir votre vue, être aveugle. Croyez-vous cela? La Bible dit. Rappelez-vous Élie à Dothan. Il descendit et frappa le peuple d'aveuglement. Il dit, maintenant, suivez-moi. Ils étaient aveugles pour lui. Et le peuple est aveugle ce soir. Une certaine église, il ne croit pas à la guérison divine. Il s'avança vers moi une fois et dit, frappez-moi d'aveuglement, frappez-moi d'aveuglement. C'était dans la maison de Frère Wright. Il dit, frappez-moi d'aveuglement. Il dit, Paul frappa un homme d'aveuglement une fois. Il dit, frappez-moi d'aveuglement. Je dis, ami, le diable l'a déjà fait. Vous êtes déjà aveugle, vous l'êtes. Il dit, guérissez cette petite fille et je vous croirai. Je dis, sauvez ce pécheur et je vous croirai, certainement. Oh, il dit, il doit croire. Je dis, c'est la même chose ici. Cela doit venir par la grâce souveraine de Dieu. Le diable, le Dieu de ce monde, a aveuglé les yeux du peuple. Ils ont des yeux, mais ne peuvent pas voir. La Bible le dit ainsi. Ici, il montait la rue, laissant des traces de pas ensanglantées sur la route. L'abeille de la mort piquait autour de lui, bourdonnait vers lui. Encore un petit moment et je vais t'avoir. Il devenait faible, avait soif de l'eau. Une fois, quelqu'un m'a tiré dessus. Gisant là-haut dans les champs, mon sang se répandait. J'ai hurlé pour de l'eau. Et mon copain courut, prit sa casquette, l'a mis dans l'eau, de la vieille eau stagnante pleine de verre. Il vint vers moi, me tint la bouche ouverte et il serra cela, parce que le sang giclait comme une fontaine. On m'avait tiré dessus avec un fusil. Avoir soif. Alors je sais ce que mon Seigneur doit avoir souffert. Après avoir saigné tout ce matin-là, depuis 9h jusqu'à 3h de l'après-midi, perdant tout ce sang, d'abord je vois sa robe avec quelques petites taches sur elle. Toutes ces taches commencent à devenir grandes et coulent ensemble et forment une très grande tache, le frappant dans les jambes comme il marchait. C'était le sang d'Emmanuel. Oh, la terre n'en était pas digne. Mais, comme il montait, cette abeille bourdonnante autour de lui, que fit-elle? Finalement, elle le piqua. Mes frères, n'importe qui sait que si un insecte ou une abeille vous pique une fois, pour elle, l'affaire de piquer est terminée. Elle ne peut plus piquer. Et quand elle s'envole, elle laisse là son dard. C'est la raison pour laquelle Dieu devait être fait chair. Il prit l'aiguillon de la mort dans sa chair et il sortit l'aiguillon de la mort. Béni soit le nom du Seigneur. La mort peut vous donner et piquer, mais elle ne peut pas vous faire de mal. Oh! Quand il sentit cette abeille bourdonner autour de lui, la mort venait autour de lui. Alors il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Il pouvait pointer au calvaire où elle a été laissée dans la chair d'Emmanuel. Où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous ne voyons pas toutes choses. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu inférieur aux anges pour souffrir la mort. Car il convenait pour lui, de qui sont toutes choses et par qui nous avons toutes choses, beaucoup de fils, pour être fait chef, capitaine de notre salut par la souffrance. La seule façon qu'il pouvait devenir le capitaine de notre salut, il devait souffrir. Écoutez ces magnifiques paroles maintenant. Écoutez maintenant. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Oh, ne voyez-vous pas le sarment et le cèpe là, tous un? C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Voyez pourquoi. Écoutez le prochain verset. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te louerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. L'homme a toujours peur de la mort. Le Christ est devenu péché, a été abaissé pour prendre la mort sur lui-même. Et il n'a pas honte d'être appelé notre frère, car il fut tenté exactement comme nous sommes tentés. Et il peut être la juste sorte d'intercesseur, car il subit la même sorte de tentation que vous subissez. Et il prit votre place, sachant que vous ne pouviez pas la prendre vous-même. Ainsi, ne voyez-vous pas, frères et sœurs, toutes choses sont grâces, tout est grâce, ce n'est de toute façon pas ce que vous faites, c'est ce qu'il a déjà fait pour vous. Amen. Vous ne pouvez pas faire une chose pour mériter votre salut. Votre salut est un don. Christ est devenu péché afin que vous puissiez devenir juste. Ayez la bonne sorte de capitaine en chef pour notre salut, parce qu'il a souffert juste comme nous souffrons. Il a été tenté juste comme nous sommes tentés. Et il n'a pas honte d'être appelé notre frère, parce qu'il sait par quoi nous devons passer. Oh, béni soit son nom. Car, en vérité, il ne prit pas pour lui la forme des anges, mais il prit sur lui la semence d'Abraham. Oh, il n'est pas devenu un ange, il est devenu la semence d'Abraham. Et nous, étant morts en Christ, nous revêtons la semence d'Abraham et sommes héritier selon la promesse. Voyez, il ne prit jamais la forme d'un ange. Il ne devint jamais un ange. Il devint un homme. Il devint la semence d'Abraham et prit l'aiguillon de la mort dans sa propre chair pour nous réconcilier avec Dieu. Et maintenant, il est assis comme intercesseur. Oh, comment pouvons-nous le rejeter, amis? Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Afin qu'il soit donc le réconciliateur. Vous voyez, il y avait de l'inimitié entre Dieu et les hommes, et aucun homme, il envoya les anges, les prophètes. Ils ne pouvaient pas prendre votre place, parce qu'ils devaient prier pour eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas prendre la place. Alors il envoya la loi. La loi était un policier qui nous mit en prison. Cela ne pouvait pas nous en sortir. Il envoya la loi. Il envoya les prophètes. Il envoya les justes. Et tout, rien ne pouvait faire l'expiation. Mais il descendit et devint l'un de nous. Oh, j'aimerais que nous ayons plus de temps, juste maintenant. J'aimerais vous conduire à cette loi de rédemption. Mais nous n'avons pas le temps. Mais seulement pour un moment. Nous avons la merveilleuse image de cela en Ruth et Naomi. Si vous voulez voir là la réconciliation. Le mari, l'homme qui pouvait racheter la propriété perdue et tombée, il devait être de la parenté de la personne qui avait perdu le domaine. C'est la raison pour laquelle Boaz était un parent de Naomi, afin qu'il puisse avoir Ruth. Et alors qu'il devait être digne, il devait être capable de le faire pour sauver les perdus. Et Boaz, à la porte, témoignant en public en enlevant son soulier, qu'il avait racheté Naomi et toute sa possession. Et il devait être de la parenté. Et c'est la raison pour laquelle Christ, Dieu, devait devenir un de nos parents. Et il descendit et devint un homme. Et il souffrit la tentation. Et on s'est ri de lui. On se moqua de lui. Et il fut persécuté, ignoré et appelé Belzébul. Et on se railla de lui. Et il souffrit la mort par la peine capitale. Voyez, il devait être notre proche parent. Il dut être accusé faussement parce que vous êtes accusé faussement. Il dut supporter la maladie parce que nous sommes malades. Il dut supporter des péchés parce que c'était vos péchés. Et il dut devenir un parent. La seule façon qu'il puisse nous racheter est en devenant un de nos parents. Et comment devint-il un de nos parents? Si ce ne fut en prenant la forme de la chair pécheresse et en devenant un de nous. Et en cela, il paya le prix et nous racheta, nous ramenant dans la communion du Père. Oh, quel sauveur! Les paroles ne peuvent pas l'exprimer. Car du fait qu'il a souffert lui-même la tentation, il peut secourir ceux qui sont tentés. Secourir veut dire avoir compassion. C'est la raison pour laquelle il devint ceci, afin qu'il puisse avoir de la compassion avec vous qui êtes, qui avez vos hauts et vos bas et vos petites difficultés. Vos tentations deviennent si grandes parfois que vous ne pouvez presque pas les supporter. Il sait comment compatir avec vous. Il est assis pour intercéder. Il est assis là pour vous aimer. Et même si vous vous égarez, il ne veut pas vous abandonner. Il viendra de nouveau auprès de vous et frappera votre cœur. Il n'y a pas un rétrograde dans ce bâtiment qui ne sache que Dieu frappe chaque jour à son cœur. Et il le fera aussi longtemps que vous serez un mortel sur cette terre, car il vous aime. Il vous a racheté. Les poètes ont essayé, les auteurs ont essayé, l'homme a essayé d'exprimer ce thème de l'amour. Mais cela ne peut pas être trouvé dans les expressions humaines. Quelqu'un a dit, « Oh, amour de Dieu, combien riche et pur, combien profond et puissant, il demeurera pour toujours. Les saints et les anges le chantent. Si nous remplissions l'océan d'encre et ferions le ciel de parchemin, chaque tige de la terre une plume et chaque homme un scribe de métier, d'écrire l'amour de Dieu assécherait l'océan et les rouleaux ne pourraient pas tout contenir, même étendu d'un bout du ciel à l'autre. Vous ne comprendrez jamais. Il n'y a aucun moyen pour nous de comprendre comment ce grand sacrifice qu'il fit descendit et nous réconcilia de nouveau avec Dieu. Alors il retourna et dit, « Maintenant, je ne vous laisserai pas sans consolation. » Je reviendrai de nouveau et je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et ici nous sommes aujourd'hui, vivant dans les temps de la fin, avec le même Jésus, la même chose, le même signe, les mêmes prodiges, le même salut, le même esprit, faisant les mêmes choses, le même évangile, la même parole, les mêmes illustrations, les mêmes manifestations, tout. Cela nous appartient de ne pas négliger un si grand salut, car nous aurons à rendre compte un jour de ce que nous faisons avec le Fils de Dieu. Il est sur vos mains ce soir, pécheurs, rétrogrades, que ferez-vous avec lui? Vous dites, bien, promettons cela une autre fois. Rappelez-vous, ne faites pas cela. Il n'y a aucune possibilité, si vous êtes un pécheur, que vous puissiez quitter ce bâtiment et que vous soyez le même. Vous ne pouvez pas le faire. Pilate, un soir, essaya de le faire. Il demanda de l'eau et il se lava les mains. Il dit, je n'ai rien du tout à faire avec cela. C'est comme si je ne l'avais pas vu. Je n'ai jamais entendu l'évangile. Je ne veux rien avoir à faire avec cela. Pouvait-il s'en laver les mains? Il ne pouvait pas. Finalement, savez-vous ce qui arriva à Pilate? Il perdit la tête. Et là-bas, en Suisse, où nous étions l'année dernière pour prêcher l'évangile, il y a une vieille légende qui dit, qu'il y a une grande pièce d'eau que les gens viennent voir de toutes les parties du monde. venant regarder cela chaque année au moment de la crucifixion. Pilate s'y jeta lui-même pour mourir en s'y suicidant, et il se noya en se précipitant dans l'eau et périssant par lui-même. Et chaque année, ce même jour, de l'eau bleue fait ébullition en dehors de cet endroit pour montrer que Dieu a rejeté cette eau. L'eau ne pourra jamais laver le sang de Jésus, de vos mains ou de votre âme. Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de l'accepter comme votre pardon personnel et d'être réconcilié avec Dieu. Prions. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour la parole, car la foi vient de ce que nous entendons et entendons par la parole. Nous te remercions pour Jésus. Et alors que nous voyons ce grand jour dans lequel nous vivons, ces signes et ces prodiges, comment nous laissons ces choses passer? Ô Dieu, ouvre les yeux des gens dans ce tabernacle ce soir, afin qu'ils puissent voir et comprendre que nous sommes dans les dernières heures. Le temps passe rapidement. Nous n'avons plus beaucoup de temps ici et nous devrons voir Jésus. Et nous aurons à être considérés comme traîtres. Car il n'y a aucune excuse ce matin. Quand tu donnas cette grande et puissante vision de cet homme venant ici, de très loin en province, et de la voir sans l'ombre d'un doute se lever de cette chaise roulante, recevoir sa vue, ses jambes devinrent fortes, descendant le bâtiment, se réjouissant, glorifiant Dieu, cela montre que Dieu est toujours capable de ses pierres, de susciter des enfants à Abraham. De voir les visions comme Jésus dit, je ne fais rien avant que le Père me montre, je ne peux rien faire. L'aveugle suivi dit, aie pitié de nous. Il dit, touche à ses yeux et dit, qu'il te soit fait comme tu crois. Maintenant, Seigneur, nous voyons Jésus. Nous ne voyons pas toutes choses, mais nous voyons que nous laissons encore, mettons dans la tombe les saints qui sont parmi nous et marchons à la tombe de l'un et de l'autre. Mais nous voyons Jésus qui fit la promesse. Nous le voyons avec nous, pas Jésus dans la tombe, pas Jésus il y a 2000 ans. Mais Jésus ce soir qui est avec nous, nous le voyons manifester dans toute sa puissance et signes et prodiges. Ô Dieu, puissions-nous ne jamais négliger ce grand salut, mais que nous le saisissions, l'acceptions et soyons pleins de respect, vivions par lui, jusqu'au jour où Jésus viendra nous prendre à la maison. Accorde-le Seigneur, nous le demandons dans son nom. Et pendant que nous avons nos têtes inclinées, je me demande s'il y a une personne ici dans le bâtiment ce soir, sous la divine présence du Saint-Esprit qui dirait, Frère Branham, je suis convaincu que j'ai tort. Je suis convaincu que j'ai tort. Dieu m'a révélé mes péchés. Et je sais que j'ai tort. Je veux lever ma main vers lui et demander sa miséricorde ce soir. Dieu, pitié de nous, j'ai tort. Ferez-vous cela? Pendant que nous attendons juste un moment, il y a une personne ici qui veut. Il y a des baptêmes qui auront lieu dans un moment. Et si vous êtes un pécheur, je me repentirai. Comment pouvez-vous rejeter un tel amour inégalable de celui qui mourut? Le Saint Dieu du ciel devint un homme pécheur, non pas parce qu'il pécha, mais parce qu'il avait vos péchés et les apporta au calvaire. Et vous ne voulez pas accepter ce pardon? Ne le ferez-vous pas ce soir? Alors que nous avons nos têtes inclinées, que quelqu'un dise, souvenez-vous de moi, frère Branham, je vais lever mes mains vers Christ et dire, aie pitié de moi, j'ai tort et je vais réconcilier avec Dieu. Voulez-vous lever votre main? Très bien. Si chacun est un chrétien, alors prions. Père, nous te remercions ce soir que tous ceux-ci ici sont des chrétiens, qu'ils m'ont témoigné récemment dans le silence, que tous leurs péchés sont sous le sang. Et je suis si reconnaissant pour cela, bénis les Seigneurs, et je suis si content qu'ils aient trouvé la réconciliation par l'offrande du sang en entendant la parole, le lavage d'eau par la parole. Il nous nettoie, il nous conduit à un plus grand Dieu, où le pécheur dans son infâme obscurité devient aussi blanc que neige. Les saints écarlates du péché ont été lavés et nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Combien nous remercions cela, te remercions pour cela. Maintenant le service de baptême arrive. Je comprends que cette jeune dame ce soir sera baptisée ici en bas dans le nom de son Seigneur. Ô Père Céleste, nous prions afin que tu bénisses cette jeune femme. Comme mes pensées reviennent, il y a seulement quelques jours, montant à elle lui dire, les voyant cette jolie petite fille marchant dans la rue, et ce soir, c'est une mère, une dame, elle est acceptée comme son sauveur personnel. La vie était dure pour l'enfant. Seigneur, ô Dieu, mais le ciel est sûr pour elle. Et nous te remercions pour cela. Nous prions Dieu que tu bénisses la jeune femme maintenant, comme elle vient pour être baptisée dans l'eau, que tu la remplisses avec le Saint-Esprit de Dieu. Accorde-le, Seigneur, et que son âme frissonne jusqu'aux cieux. Accorde-le pour ta gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans Actes, deuxième chapitre. Pierre parlant au jour de la Pentecôte, le premier baptême qui fut jamais accompli dans l'église chrétienne. Pierre, réprimandant les pharisiens et les gens aveugles pour ne pas reconnaître le Fils de Dieu, parlant de comment Dieu l'a ressuscité et prouva ses œuvres par des grands signes et prodiges. Écoutez ceci, comme il parlait, il exaltait Jésus. L'esprit de chaque chrétien exalte Jésus, pas seulement par vos lèvres, mais par votre vie. Vos lèvres peuvent dire quelque chose, votre vie en faire une autre. Si vous faites cela, vous savez ce que c'est, cette hypocrisie. Et je préfère faire face au ciel comme un infidèle que comme un hypocrite. J'aurai plus de chance, je crois, dans le ciel comme un infidèle que d'être un hypocrite. Vraiment, si vous témoignez pour Jésus et dites, il est le sauveur, vous vivez comme cela parce que les gens attendent cela de vous. C'est juste. Vous vivez comme un chrétien de vrai. Nous avons vu cela ce matin. Maintenant, le Seigneur voulant, demain soir ou mercredi soir, nous prendrons le troisième chapitre qui est un merveilleux chapitre. Et maintenant, soyez sûrs d'essayer de venir mercredi soir. Combien aime ce livre, cet enseignement d'école du dimanche? Oh, merci beaucoup, c'est bien. Maintenant, je veux lire dans Actes, deuxième chapitre, commençant au 32e verset. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Il savait. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Maintenant écoutez-le parlant de David, un des anges. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David ne pouvait pas monter. Il était sous le sang versé des génisses, des chèvres et des brebis. Mais maintenant, il peut s'élever. Il est sous le sang du Seigneur Jésus, car il ne répondait qu'à ce sang quand il va en force. Quand le sang de Jésus va en force, tous ceux qui étaient morts dans de bonnes faveurs ressuscitèrent. Jésus est monté dans la gloire. Maintenant, écoutez. Que toute la maison d'Israël sache, écoutez ceci, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que dites-vous de cela? Est-il la troisième personne de la Trinité ou est-il la Trinité entière? Il est l'entière plénitude de la divinité corporellement. Il n'y a rien de tel que trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cela n'est même pas dans les Écritures. Nulle part. Cela n'est nulle part nous avons été commandés de baptiser au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nulle part dans les Écritures. C'est un credo catholique et ce n'est pas pour l'Église protestante. Je vais demander à n'importe qui de me montrer une Écriture où quelqu'un a été baptisé d'une autre façon que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez me la montrer et je mettrai un signe sur mon dos. Hypocrite et faux prophète et faux docteur. Et j'irai parler d'eux. Il n'y a pas une telle chose. Personne n'a jamais été baptisé de cette façon. C'est un credo catholique, pas une doctrine protestante. Matthieu 28, 19 vous dit, Jésus dit, allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est juste, mais pas dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Le nom du Père, le nom, pas nom, du Père. Père n'est pas un nom. Combien savent cela? Combien a-t-il de Père ici? Levez votre main. Combien a-t-il de Fils ici? Levez votre main. Combien a-t-il d'humain ici? Levez votre main. Très bien. Maintenant, quel est votre nom? Pas Père, Fils ou humain? Une femme m'a dit une fois qui était une stricte pythéiste. Elle dit, Frère Branham, mais le Saint-Esprit est un nom. Je dis, le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. C'est le Saint-Esprit, pas un nom. Voilà ce qu'il est. Je suis un humain, mais mon nom est William Branham. Il n'est pas humain. Parce qu'il a dit, allez partout, enseignez toutes les nations, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Pierre, 10 jours après, dit, repentez. Maintenant, écoutez ceci. Après avoir vu cela, ils furent touchés dans leur cœur et dirent à Pierre aux apôtres, que ferons-nous? Pierre leur dit que chacun de vous se repente et soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors est-ce que Pierre fait ce que Jésus ne lui a pas dit de faire?
Il n'était pas dans la confusion. Nous sommes ceux qui sont dans la confusion. Dans les actes de 38, les Juifs furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Et à le 8e chapitre, nous savons que Philippe descendit et prêcha aux Samaritains. Et les baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ, les Samaritains. Et dans Actes 10:49, Pierre commanda aux gentils d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul, Actes 10:5, il passa sur la côte supérieure d'Éphèse. Il trouva des disciples. C'étaient des disciples baptistes. Ils étaient tous baptistes. Ils étaient convertis sous leur prédicateur baptiste du nom de Apollos. Et c'était un prédicateur baptiste. Elle trouvait par la Bible que Jésus était le Christ. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? Il dit, nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, alors comment avez-vous été baptisé? Il dit, nous avons été baptisés par le même homme qui baptisa Jésus dans le cours là-bas. Cela suffit. Paul dit, ça ne va plus maintenant. Vous devez être baptisé à nouveau. Et Paul leur commanda d'être baptisé à nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et leur imposa les mains. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. C'est juste, oui, monsieur. Il y aura de la lumière au temps du soir. Tu trouveras certainement le chemin de la gloire. Le chemin donc de la lumière aujourd'hui, enseveli dans le précieux nom de Jésus. Jeune de Dieu, repentez-vous de vos péchés. Le Saint-Esprit va certainement entrer. La lumière du soir est venue. C'est un fait que Dieu est Christ, son Saint. C'est ce que la Bible dit. C'est juste. C'est l'heure où nous devrions nous repentir. Dites, appelez quand vous êtes prêts dans la piscine et nous, vous êtes prêts? Très bien, ouvrez les rideaux. Maintenant, le Seigneur vous bénisse maintenant, pendant que le frère administre le baptême. Pouvez-vous tous voir ceci?